15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Du lundi au vendredi, il est à mes côtés pour prendre soin de vous, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la migraine, ou plutôt aux migraines, car vous verrez, il en existe plusieurs formes. Avec notre invité, le neurologue Dominique Valade, nous ferons le point sur les facteurs de risque de la migraine, mais aussi sur les facteurs déclenchants. Un migraineux, par exemple, doit toujours se lever à heure fixe, manger à heure fixe aussi, une vraie vie de moine, mais qui diminue de 50% le risque de crise. Et puis on parlera aussi des traitements de la migraine, un nouveau, notamment, arrive bientôt sur le marché, et il pourrait révolutionner pas mal de choses pour bon nombre de malades. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des dégâts du tabagisme passif. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des grains de beauté. Savez-vous comment il faut les surveiller, surtout chez ceux qui en ont beaucoup? À quel rythme faut-il les faire voir à un dermato? On vous expliquera tout ça. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, nous parlera de l'utilisation des sextoys dans le couple ou en solo.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Michael.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je vous appelle parce que j'ai entendu parler de la tension qu'on pouvait avoir dans les yeux et je voulais savoir à quoi ça correspond exactement. Merci à vous.
Jimmy, alors la tension oculaire, c'est moins connu que la tension artérielle, l'hypertension artérielle même. Justement, dites-nous en plus sur cette tension oculaire.
Alors, quand on parle de tension, on veut parler de la pression sanguine qui peut être élevée à ce moment-là. La tension oculaire, elle se caractérise par une pression dans les yeux qui dépasse un certain seuil. On mesure la pression oculaire en millimètres de mercure et elle doit être comprise entre 10 et 20 millimètres de mercure. Donc, tout ce qui est au-dessus de 20 est considéré comme de l'hypertension. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux car sur le long terme, l'hypertension oculaire peut endommager le nerf optique et conduire au glaucome, cette maladie qui peut elle-même aussi conduire à la cécité lorsque celle-ci n'est pas traitée.
Donc effectivement, un facteur de risque de glaucome très important. Alors pourquoi on peut avoir de la tension dans l'œil? Il se passe quoi physiologiquement dans l'œil?
Alors l'hypertension oculaire, c'est le résultat d'un déséquilibre de ce qu'on appelle l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est un fluide qui est transparent et qui est contenu dans l'œil et qui est produit par ce qu'on appelle les corps ciliaires.
Ça, on en a tous, de ce liquide.
De façon naturelle. Ouais. Sauf que lorsque le corps ciliaire produit trop d'humeur aqueuse, lorsqu'il y a trop de liquide ou que ce liquide ne peut pas être évacué correctement, ça fait augmenter la pression et la pression oculaire conduit ensuite à ce dont on a parlé tout à l'heure. À l'inverse, s'il n'y a pas assez de liquide ou si le liquide s'écoule trop facilement, eh ben on peut avoir une tension trop basse qui peut aussi poser problème.
Donc il y a de l'hypotension ou de l'hypertension dans l'œil également. On a compris ce qui dysfonctionne grâce à vous, mais qu'est-ce qui peut le provoquer du coup ce dysfonctionnement?
Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer ça. On a des facteurs qu'on peut modifier comme le tabac. Le tabagisme augmente la tension oculaire. On a le diabète, certaines maladies cardiaques, le fait de consommer beaucoup de sel ou un excès de viande rouge, l'alcool évidemment. On peut aussi avoir des médicaments qui peuvent entraîner une hypertonie oculaire et puis certains traitements sont aussi contre-indiqué lorsque vous avez un glaucome, donc il ne faut pas hésiter à bien lire la notice ou informer le médecin, parce que souvent on oublie de dire qu'on fait de l'hypertension oculaire parce que ça passe un peu inaperçu. On sait qu'il y a un terrain génétique très important. Si des gens dans la famille en ont fait, vous risquez d'en faire. Et puis à l'âge, après 40 ans, on a plus de risques d'avoir de la tension oculaire que lorsqu'on est un peu plus jeune comme vous, Mélanie.
Merci, c'est gentil pour de souligner ma jeunesse, évidemment. Alors rapidement, comment on sait qu'on en a? Parce qu'il y a des signes éventuellement qui doivent faire penser. Je ne sais pas, il y a l'œil qui crépite, j'en sais rien.
Justement, dans le monde, on n'a pas de signes. Et c'est ça le problème, c'est que quand on commence à avoir des symptômes, c'est que c'est déjà un peu tard et on peut avoir une vision trouble. Dans ce moment-là, il ne faut pas hésiter à faire dépister dès 40 ans, une fois ou deux fois, une à deux fois par an, chez l'ophtalmo, la tension oculaire.
Quand on va chez l'ophtalmo, en général, il le fait.
Ne pas attendre d'avoir des signes oculaires. Et évidemment, si vous en avez, il est urgent de consulter.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Seb, 47 ans. On l'écoute.
Bonjour Jimmy Mohamed, bonjour Mélanie, bonjour l'équipe. Sébastien, 47 ans, de l'Odève. Je vous appelle pour une petite question rapide. À partir de quand vous me recommanderiez de faire un test d'audition? En effet, j'arrive à bientôt 50 ans. J'écoute pas mal de musique, souvent au casque, et parfois j'ai l'impression qu'avec mes amis, j'ai quelques bribes qui passent et que je n'entends pas spécialement. Donc, me recommanderiez-vous de faire un test d'audition? Et sinon, quel est le vrai âge, plus ou moins, pour ce genre de test? Je vous remercie et je vous embrasse. Et à bientôt. Merci pour l'émission. Salut.
Bon, mais Seb, je crois qu'il a un petit peu identifié les facteurs de risque tout seul. Il a bientôt 50 ans, il reconnaît qu'il écoute de la musique trop fort. Bon, Jimmy, avec l'âge, malheureusement, c'est un peu notre lot à tous. On perd de l'audition, mais je veux dire, ça, c'est tout le monde, on n'a pas le choix.
Oui, exactement. Avec l'âge, naturellement, l'audition baisse. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. De la même façon que lorsqu'on voit un petit peu moins bien, on appelle ça la presbytie. Et c'est fréquent à partir de 60 ans. Et on recommande néanmoins de consulter aux alentours de 50 ans. Et en particulier, si vous avez une exposition notamment à des sons bruyants, vous travaillez dans un aéroport, vous êtes ouvrier dans le bâtiment, ou si vous avez écouté beaucoup de musique ou êtes allé voir beaucoup de concerts, eh ben, il y a un risque pour l'audition et donc il faut se faire dépister.
Bon, donc vers 50-60 ans, juste avant ça, peut-être on peut avoir quand même des troubles. Qu'est-ce qui doit nous alerter, qu'on entend peut-être, qui pourrait nous faire comprendre qu'on entend peut-être moins
bien ? Souvent, c'est l'entourage qui vous le fait remarquer. Vous devez répéter les choses qu'on vous a expliquées, vous montez le son de la télé, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, vous avez l'impression d'entendre un peu comme si vous étiez sous l'eau. Ce sont des signes simples qui doivent vous faire consulter l'ORL.
Et donc en général, pour tester l'audition, c'est l'audiogramme. On n'a pas vraiment le temps de détailler, mais un audiogramme, on nous fait quoi ?
On est dans une pièce, on écoute des sons purs à différentes fréquences.
Dans un casque,
exactement. On vous dit d'appuyer sur un bouton ou de lever la main en fonction du son entendu. Le médecin vous donne un petit schéma à la fin et vous savez si vous avez une surdité ou une baisse de l'audition qui devra soit être suivie ou appareillée.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Seb, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du tabagisme passif et de ses dégâts. Et puis, on accueillera aussi notre invité, le neurologue Dominique Valade, avec qui nous allons tout vous dire sur les migraines et leur traitement, bien sûr. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le neurologue Dominique Valade, avec qui nous allons faire un point sur la migraine et sur ses traitements, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Jimmy, vous allez nous parler d'une étude de Santé publique France à propos du tabagisme passif, donc dans notre pays, et de ses conséquences. Surtout, rappelez-nous, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est un petit peu le tabagisme passif.
Alors, le tabagisme passif, ça consiste à inhaler de manière involontaire la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs. Il ne faut pas oublier que le tabac contient plus de 17 000 substances toxiques chimiques, parmi lesquelles on a la nicotine, des irritants, des produits toxiques comme le monoxyde de carbone, et plus de 50 substances qui peuvent favoriser l'apparition de cancers. La fumée, elle est donc extrêmement nocive à la fois pour le fumeur,
ça,
mais aussi
on en parle souvent, mais
pour ceux qui vont la subir sans le vouloir ou sans le demander.
Et donc ce tabagisme passif, il diminue en France, hein ?
Oui, c'est une bonne chose. Au domicile, on fume moins. On est passé de 27,5% de tabagisme passif à 17,5%. Donc c'est bien qu'on observe ça de façon régulière ou simplement de temps en temps. Et cette baisse, elle est fréquente et elle est majeure chez les fumeurs quotidiens, ceux qui fument tous les jours. On fume 14% de moins au domicile quand il y a des gens. Attention, lorsqu'il y a des enfants, les chiffres s'améliorent, mais le tabagisme persiste. On est passé de 30% de fumeurs à 15%. Donc il y a une amélioration, mais ça veut dire que 15% encore des gens, des enfants, sont exposés au tabac de leurs parents.
D'accord, mais tout ça, c'est quand même encourageant, non ? Même s'il y a encore du travail à faire, ça que vous
dites. Oui, parce que malgré la réglementation adoptée en 2007, il y a encore 15% des gens qui ont entre 18 et 65 ans qui déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac sur leur lieu de travail.
Et oui, pourtant c'est interdit,
c'est interdit.
On est d'accord.
Donc 15%, c'est plutôt pas terrible. D'autant plus qu'il y a une inégalité sociale importante entre les professions. Les ouvriers sont 4 fois plus nombreux que les cadres à être exposés à ce tabac.
C'est dramatique, d'autant plus que le tabagisme passif, ça peut vraiment avoir des conséquences sur la santé, rappelez-nous. Hein.
Exactement, c'est Santé publique France qui le rappelle. L'exposition d'un non-fumeur à la fumée de cigarette augmente ses risques de cancer du poumon de 25%. Son risque d'événement cardiaque, donc de maladie cardiovasculaire, de 30%. Le tabagisme passif double le risque des cancers du sinus de la face et des accidents vasculaires cérébraux. Chez les enfants, on sait qu'évidemment, c'est une source majeure de rhinopharyngite, d'otite, de crise d'asthme, et puis aussi de développement des poumons qui vont être un peu moins performants. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, chez l'enfant, c'est un facteur de risque de mort subite du nourrisson.
Et oui, c'est vrai.
Chez la femme enceinte, on le sait aussi qu'il y a plein d'autres effets secondaires, risque de fausse couche, de grossesse extra-utérine, d'accouchement prématuré, un faible poids de naissance. Bref, ne fumez pas pour vous, mais aussi pour les autres.
Bien sûr, et de toute façon, on est de moins en moins nombreux à être des fumeurs, et
comme
c'est
vous,
une
Mélanie,
bonne nouvelle.
Plus de 3 mois
Allez,
sans tabac.
Encore un peu d'effort pour les autres. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour cet éclairage. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Dominique Valade. Il est neurologue à Paris, attaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Valade.
Bonjour.
Alors avec vous aujourd'hui on parle de la migraine, même plutôt des migraines. D'abord parce que si on reprend du début, la migraine, il n'y a pas qu'une migraine, il y a des migraines. Et comment on fait la différence avec un simple mal de tête ?
Alors la migraine, c'est une pathologie qui en fait est multiple, parce qu'on peut avoir des migraines avec aura ou des migraines sans aura déjà. L'aura étant quelque chose qui précède la céphalée. Pour dire qu'on a une maladie migraineuse, généralement, il y a des antécédents familiaux. Le père ou la mère sont souvent migraineux. C'est une maladie génétique hein, qui est essentiellement portée par un grand nombre de chromosomes, mais essentiellement le 8. Et à partir de là, il y a toute une cascade de symptômes. Et il faut avoir fait au moins 5 crises, à peu près identiques, qui durent de 4 à 72 heures, la plupart du temps au début, en hémicranie, c'est-à-dire d'un seul côté, mais qui va généralement se généraliser. C'est une douleur qui est plutôt à tonalité, ça tape comme le cœur. C'est violent, c'est augmenté par l'exercice physique. Ça s'accompagne de nausées et de vomissements. Et on est gêné par le bruit et la lumière.
Jimmy ?
J'en vois régulièrement en visite ou en consultation, mais est-ce que c'est si fréquent que ça, la migraine ?
Alors, la migraine est très fréquente, puisque c'est 12,5% de la population qui est atteinte.
Ah oui, c'est
alors,
énorme.
Avec quelque chose de très intéressant, c'est que c'est interracial, c'est différent. Il y a 12,5% de caucasiens, pour 10% de noirs et 8,5% d'asiatiques.
D'accord. On n'a pas tous atteint de la même
vague.
C'est plus des femmes, on a l'impression, mais c'est peut-être une idée reçue.
C'est une idée reçue.
La femme qui dit j'ai mal à la tête, mais en fait, les hommes sont aussi touchés. Hein,
exactement.
C'est ça.
Parce qu'en fait, il y a plus de femmes qui font des crises de migraine, mais il y a autant de femmes que d'hommes qui sont migraineux.
Ah,
par exemple, si on prend l'exemple des enfants, avant la puberté, on a 55% de petits garçons pour 45% de petites filles.
Parce qu'il y a des enfants qui font des migraines ?
Bien sûr. Dès la naissance.
C'est pas possible.
Absolument.
Un bébé.
Les vomissements cycliques du nourrisson sont des équivalents migraineux.
Et vous soignez des tout petits patients comme ça de migraines ?
Absolument.
Parce qu'ils ne le racontent pas, ils ne disent pas j'ai mal à la tête.
Non, ils ont mal des transports.
Ah ouais. C'est comme ça que vous les identifiez. Et vous en avez dans votre patientèle des enfants aussi ?
Oui, bien sûr.
C'est de la folie.
Bien sûr.
Et surtout que chez l'enfant, c'est souvent sous-diagnostiqué. En plus, souvent, la migraine de l'enfant
tout
passe
à fait. L'enfant a un type de migraine un peu spécial. Il a souvent mal au ventre. Il a cette fameuse migraine dite migraine abdominale.
Ah oui, c'est incroyable. Docteur Valade, on ne fait que commencer cet entretien. Bien sûr, on reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on passe au diagnostic. Comment savoir qu'on souffre véritablement de migraines ? Car souvent, les symptômes vont bien au-delà de la douleur de la tête. On vous en a déjà dit un petit mot. À partir de quand faut-il vraiment consulter ? Et quels sont les facteurs déclenchants à éviter ? On fera le point. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le neurologue Dominique Valade. Docteur Valade, il se passe quoi d'abord dans le cerveau ? Je ne sais pas si c'est dans le cerveau d'ailleurs, quand on a une migraine physiologiquement, qu'est-ce qui se passe ?
On va schématiser un petit peu, si vous voulez. En gros, vous avez une onde qui se déplace sur le cerveau et qui entraîne au niveau des vaisseaux de la méninge, pas au niveau des vaisseaux du cerveau.
C'est pas dans le cerveau que ça se passe, en fait.
Essentiellement dans les vaisseaux de la méninge. C'est pour ça que dans une maladie migraineuse, ça ne sert à rien.
La méninge, c'est l'enveloppe.
C'est l'enveloppe du cerveau. Il y a trois enveloppes. Et dans ces vaisseaux-là, il y a une vasodilatation.
Ça se dilate.
Et comme ce vaisseau est entouré de nerfs, ça tire sur le nerf et ça fait un syndrome inflammatoire. Bon, c'est très schématique, hein. Il y a énormément de facteurs qui se produisent, entre autres.
Mais c'est ça,
grosso modo, c'est comme ça que ça marche. C'est d'ailleurs pourquoi, on le verra quand on va étudier les traitements, on utilise des vasoconstricteurs pour ramener le vaisseau à sa taille normale et des anti-inflammatoires.
On en parlera juste après. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ? Vous avez dit tout à l'heure, bon, le côté génétique, ça c'est clair. C'est-à-dire, on a combien de risques si on a, je ne sais pas, une maman migraineuse, qu'elle ait des enfants migraineux ?
Quasiment une chance sur deux.
Ah oui, il y en a beaucoup en fait.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Ouais.
Il y en a beaucoup.
C'est très familial.
Et ça,
comme
c'est
maladie.
Très familial et c'est vraiment un gros facteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut penser ne pas avoir de père ou de mère migraineuse parce qu'ils peuvent très bien ne pas être migraineux et ne jamais avoir déclenché de crise.
Ne pas
rencontrer leur facteur déclenchant.
Ah, d'accord, c'est intéressant. Jimmy ?
Vous nous avez parlé tout à l'heure un petit peu des migraines avec ou sans aura. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est aux gens ?
Alors, en fait, toutes les migraines sont des migraines avec aura. Mais 80% sont des migraines avec aura silencieuse.
Ah, c'est quoi l'aura ?
Alors l'aura, c'est une onde qui se déplace sur le cerveau et qui, suivant la zone où elle se trouve, donne des signes dans cette zone. Elle commence généralement dans la zone du cortex visuel et dans 90% des cas, on a des hallucinations.
C'est-à-dire, on voit quoi ?
Et bien, on voit des lignes brisées, on voit un kaléidoscope, on voit la vue peut se troubler de façon importante, voire même...
Mais on a pas mal à la tête encore à ce moment-là.
On a pas mal à la tête, généralement. On est en phase d'aura, ça dure entre 15 et 30 minutes. Et à ce moment-là, on peut avoir un mal à la tête derrière. Ce qui n'est pas évident. On peut très bien avoir des auras sans céphalée.
Ah oui, c'est complexe.
Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette onde, elle progresse. Et après les signes visuels, on peut avoir des troubles sensitifs, c'est-à-dire des fourmillements qui montent de la main jusqu'à la bouche.
Oula, ça fait penser à un AVC, ça fait
peut-être
très peur.
C'est ça qui fait peur. Mais comme vous avez vu, je vous l'ai dit, c'est après. Et dans un troisième temps, ça peut arriver sur le cortex phasique et on a des troubles de la parole. Et dans l'extrême limite, on peut avoir une aura motrice, c'est-à-dire carrément une hémiplégie.
Ah oui, alors là, on dirait un AVC, tout ce que vous décrivez.
On dirait,
hein, ouais.
Mais par contre, dans l'AVC, tout intervient instantanément. Alors que là, vous avez une marche migraineuse.
Oui, avec plusieurs
d'abord
étapes
visuelle,
comme ça, bien
voilà.
Sûr. Jimmy ?
On sait qu'il y a des facteurs déclenchants dans la migraine. Certains, ça peut être de la fatigue, le stress. Du coup, est-ce qu'on peut, avec une hygiène de vie correcte, éviter certaines migraines ?
Je vais vous faire peur. Parce que l'hygiène de vie correcte, vous aurez du mal à la tenir.
Alors c'est quoi l'hygiène
c'est si
parfaite
dur que ça.
Pour
c'est,
éviter la migraine ?
C'est 365 jours par an.
Ah oui,
se lever à heure fixe, se coucher à heure fixe.
Même en vacances ?
Et 365 jours, j'ai commencé par ça.
Oui, mince, oui.
Manger à heure fixe, éviter les fringales, donc avoir toujours quelque chose dans sa poche à manger, s'il se passe quoi que ce soit. J'ai pas dit grignoter,
ouais. Hein,
mais...
Une petite pomme à 4 heures.
Voilà,
et
par
voilà.
Exemple.
D'accord. Mais avec... ça évite ouais. Quoi ouais.
Ça évite un très grand nombre de crises de migraine.
Je crois 50% de risque de migraine en moins, hein, c'est
ah,
ça.
Pas
hein,
loin,
ouais.
Oui. Ouais.
Mais c'est une vie de moine, ils arrivent
et
à le tenir, vos patients.
Surtout que, non seulement il faut se lever fixe, mais il ne faut pas faire de grasse matinée.
Oh,
et donc,
ouais.
Il ne faut pas faire de sieste.
Oh, ils le tiennent, les patients, ça ?
Certains. Alors, j'ai des petits jeunes qui me disent « Mais docteur, la petite bière du vendredi, là, je peux pas. Eh, » Si, mais tu auras une migraine.
Ouais, c'est ça.
Parce que l'alcool est aussi un facteur de risque de
voilà,
migraine.
C'est ce que je voulais amener. Et c'est très classique. L'alcool est un grand facteur de
tous les alcools.
Et le tabac aussi, comme
non, mais
disait.
L'alcool, vous dites l'alcool, ok, si on boit trop, le lendemain, on a la gueule de bois, on a mal à la tête.
Rien à voir.
Mais c'est pas ça.
C'est pas ça du tout. Mais alors, c'est très intéressant parce que est-ce que vous savez quel est l'alcool qui déclenche le moins de crise de migraine ?
L'eau.
C'est la vodka.
Le rosé, non, je sais rien.
La vodka.
Ah bon ? Et pourquoi ?
Ouais.
On l'explique ?
On a fait une étude sur, en prenant des, une série d'alcool.
Quoi qu'il en soit, l'alcool, c'est toujours avec modération, bien sûr,
voilà,
deux verres par jour et pas tous les jours. Jimmy ?
Et dans l'assiette, apparemment, certains aliments, enfin en tout cas certains ingrédients, comme le glutamate, pourraient être un facteur de risque de migraine.
Alors, je vais dire quelque chose qui n'a aucune connotation, notamment avec le coronavirus. Il se trouve que le glutamate, il y en a énormément dans la nourriture chinoise.
Et ça, les migraineux doivent le fuir.
Eh oui, il faut faire très attention. Dans le Nyokmam, notamment, il y a beaucoup, beaucoup de glutamate. C'est délicieux.
C'est quoi le glutamate, finalement ?
C'est effectivement un peptide que l'on trouve qui intervient dans la chaîne de la migraine, des déclenchements de crise.
Donc les migraineux doivent arriver à identifier les aliments qui en contiennent pour les éviter, c'est ça ?
Pas tous les migraineux, mais ceux qui y sont sensibles.
D'accord. La photophobie et le bruit, est-ce que ça c'est déclencheur ou c'est juste un symptôme de la migraine ?
Alors, ça peut être l'un comme l'autre. Mais c'est un symptôme de la migraine. Mais il y a des patients qui vous disent, effectivement, c'est pas je suis gêné par la lumière qui déclenchera mes crises. Mais en règle générale, ils sont photophobes, les migraineux.
Et qui on consulte si on pense avoir tout ce que vous avez décrit jusque-là ? Le généraliste, il est capable de gérer, sans vous nuire, Jimmy, évidemment, vous envoyez beaucoup des migraineux, mais est-ce qu'il faut absolument aller voir un neurologue ?
Dans un premier temps, le généraliste est tout à fait compétent pour faire le diagnostic de migraine. Hein, c'est très bien enseigné à la faculté, généralement il le fait. Où c'est intéressant de passer la main au neurologue, c'est lorsque par exemple un premier traitement de fond ne fonctionne pas, ou s'il faut faire une bithérapie, ou des choses comme ça. Vous voyez.
Il n'y a pas besoin de faire d'imagerie cérébrale quand on est migraineux, ça n'apporte rien l'IRM, le scanner,
comme
tout
je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une maladie du cerveau, donc il n'y a pas de scanner ni d'IRM à faire, c'est une céphalée primaire.
Docteur Valade, on n'en a pas terminé, surtout vous restez avec nous.
Europe.
Dans un instant, maintenant vous êtes bien calé sur la migraine, sur ce qui peut provoquer la crise, on va évidemment passer au traitement, car la bonne nouvelle c'est qu'il en existe beaucoup, et même un nouveau qui arrive très bientôt sur le marché, des injections mensuelles qui pourraient changer le quotidien de beaucoup de malades. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le neurologue Dominique Valade. Alors docteur Valade, on va passer au traitement à présent. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la migraine, dans les migraines, il y en a beaucoup des traitements.
Absolument. Mais surtout, il faut comprendre qu'il y a deux types de traitements. Un traitement qui s'adresse à tout le monde et un traitement qui s'adresse à certains.
C'est-à-dire, il y a le traitement de fond et le traitement de crise
exactement.
Déjà, hein, c'est ça.
Voilà, le traitement de crise, évidemment, tout le monde aura droit à un traitement de crise.
C'est quoi le traitement de la crise ?
Alors, le traitement de la crise, c'est essentiellement deux classes médicamenteuses, les triptans, qui sont des vasoconstricteurs, et les anti-inflammatoires.
D'accord, les triptans, c'est ce que vous disiez, ils vont calmer cette dilatation des vaisseaux
cérébraux.
Ils vont
ramener le vaisseau à sa taille normale.
Parce qu'ils sont trop élargis, trop dilatés quand on a de la migraine.
Voilà, c'est pourquoi... Un traitement à type de comme un triptan doit être pris le plus tôt possible et quand la crise est faible.
Mmh, et ça,
parce qu'il faut ramener le vaisseau le plus vite possible à sa taille normale pour éviter qu'il, entre guillemets, tire sur les nerfs qui l'entourent et provoque un syndrome inflammatoire.
Il ne faut pas attendre de souffrir le martyr pour le prendre, hein,
exactement.
C'est ça. Plus c'est frit tôt, plus ça agit vite. Jimmy ?
Oui, parce qu'en plus, j'ai des patients qui m'expliquent prendre du paracétamol en cas de migraine et ils s'étonnent que ça ne marche pas. On est d'accord que ce n'est pas du tout le traitement.
C'est absolument pas le traitement, puisque le vaisseau reste dilaté et l'inflammation s'installe.
Et quand vous parlez des anti-inflammatoires, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns ? Parce que parfois, pour les gens, c'est abstrait. On ne sait pas trop ce que c'est que les anti-inflammatoires.
Oui, bah c'est l'ibuprofène, c'est le kétoprofène, c'est des choses comme ça.
L'aspirine, ou voilà, des choses qui sont parfois en libre accès à la pharmacie.
Voilà.
Et on prend ça en combiné avec les triptans ? Comment ça se passe pendant la crise ?
Généralement, en théorie, je vais faire de façon brève, on donne un triptan le plus tôt possible, on est calmé en moins de 2 heures, parfait. On n'est pas calmé au bout de 2 heures, on prend un anti-inflammatoire. Et si par hasard, on n'a pas pu prendre son triptan le plus tôt possible, par exemple, on dort, on est réveillé par la crise, c'est trop tard.
Oui.
Dans ce cas-là, on prend le triptan et l'anti-inflammatoire en même temps.
D'accord. Et là, ça marche assez bien, ça, en général ? Vous arrivez à soulager tout le monde avec ça ?
Un très grand nombre de patients.
D'accord. Et les triptans, c'est quelque chose... Alors, on parlera du traitement de fond après, mais quand on fait des crises de migraine, on espère trouver donc un traitement préventif qui marche, qui fait qu'on n'en a plus. Mais si on a encore des crises, il faut les prendre à vie, ces triptans ? On peut en prendre à vie ? Il n'y a pas d'effet secondaire avec ces médicaments ?
Non. On a... Premier triptan sorti 1990.
Oui, ça commence à...
Vous voyez le recul que l'on a. Ouais. Nombre d'accidents quasiment nul.
D'accord.
Puisque maintenant, c'est autorisé chez la femme enceinte, donc quand même, et chez, les petits, chez les enfants.
Ah oui, carrément, même pour Jimmy.
Est-ce qu'il y a un risque de tolérance avec les triptans ? C'est-à-dire que finalement, on a besoin de plus de doses, parce que souvent, c'est la crainte des gens qui me disent « Non, non, les triptans, moi, je les garde pour les méga-crises parce que j'ai peur que ça ne marche plus. » Et donc, ils attendent, et ils ne veulent pas trop en consommer en se disant « Bon, bah, moi, j'en prends, plus il sera efficace. »
Alors, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Vrai parce qu'il faut, comme n'importe quel médicament pour la douleur, ne jamais dépasser 3 comprimés par semaine, c'est-à-dire entre 12 et 15 par mois, parce qu'il y a un risque d'habituation.
Mais si quelqu'un fait 25 crises par mois, alors là, il est un peu démuni.
Bien sûr, là on est très gêné. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que les triptans sont des médicaments pour lesquels il y a les récepteurs qui se saturent au bout d'un certain temps. C'est-à-dire au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, un triptan ne peut ne plus marcher. Mais il y a 7 triptans sur le marché qui ne sont pas les mêmes molécules.
Ah oui, donc on
change de molécule. Ça lave les récepteurs pendant un certain temps du triptan précédent et on peut le reprendre 2-3 ans après, ça remarche.
Et d'ailleurs, parfois, il y a des patients qui ne répondent pas à un triptan. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas, mais qu'il faut qu'on en essaye d'autres. Parce que souvent, ils me disent « Ah ben non, ce triptan-là ne marche pas, ne m'en prescrivez plus. » Mais comme vous le dites, cette famille, donc il y a d'autres possibilités.
Exactement. Et notamment, il y a des triptans pour les gens qui ont des crises longues et des gens qui ont des crises courtes, parce qu'il y a des triptans qui mettent un certain temps à agir, mais qui agissent sur au moins 24 heures, et d'autres qui agissent très rapidement, mais moins longtemps.
Oui, donc on ne les met pas du tout tous dans le même panier,
non,
hein, les triptans. Il y en a plusieurs, et c'est important de le savoir. Mais juste une petite notion qu'on aimerait bien savoir. Est-ce qu'on est migraineux toute sa vie, ou est-ce qu'en vieillissant, il y a un espoir que ça s'arrête quand
Alors,
même ?
On est migraineux toute sa vie, ça c'est certain, puisque c'est une maladie génétique, mais les récepteurs se désensibilisent à partir d'un certain âge.
Quel âge ?
Alors, le mien.
Alors je donnerai pas votre âge à l'antenne, mais ça me fait un peu peur.
Non, à partir de 70 ans, on va dire.
Ouais, mais donc on en morfle toute
mais
sa vie quand même.
Alors il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont trouver ça aberrant, parce qu'ils auront 78 ou 82 ans et ils ont toujours des crises.
Bon, on va y passer quand même.
Mais si, il faut dire que c'est un signe de jeunesse.
C'est ça, donc tant qu'on a des migraines, c'est qu'on est jeune, c'est ça. C'est la morale de l'histoire. On va passer quand même à ce nouveau traitement qui arrive bientôt sur le marché. Alors, bon, c'est vrai que moi je suis journaliste santé depuis quelques années, j'ai l'impression que ça fait déjà 3-4 ans qu'on dit ils arrivent,
vrai,
et ils sont toujours pas là. C'est des injections, je crois, c'est quoi ces nouveaux médicaments ?
Ça fait déjà 8 ans qu'on les teste, donc ça fait 8 ans qu'on en parle.
Mais en France, on les a toujours pas.
En France, on les a toujours pas. Alors, ils sont sortis sur le marché...
Aux États-Unis, je crois
aux
d'abord.
Aux États-Unis, en septembre 2018.
Bon, ça va, on n'est pas très en retard non plus. Mais
on a demandé la sortie sur le marché français à la Haute Autorité de Santé en décembre 2018. Vous voyez que médicalement, nous n'étions pas en retard. Pour des raisons X qui font qu'en France, les médicaments sont remboursés, ce qui n'est pas le cas de plein de pays. Eh bien, ça coûte très cher, puisque ça coûte en moyenne entre 500 et 700 euros l'injection mensuelle. Ce qui ramène une note à plus de 7000 euros par an.
Oui, mais bon, donc, si c'est très efficace, si on évite aussi
efficace,
des gens qui sont en arrêt maladie, on fait des
économies
par ailleurs.
Il faut savoir qu'il y a quand même 8 millions de migraineux, et sur ces 8 millions de migraineux, il y en a simplement quelques centaines de milliers qui justifieraient peut-être de ce médicament. Puisque, normalement, quand ce médicament sortira, il devra être prescrit par un neurologue, et à des patients qui font au moins 8 jours de crise par mois.
Donc des indications très précises. Expliquez-nous quand même en quoi consiste ce nouveau médicament. Ce sont des piqûres, des injections. Hein.
Alors, je commence déjà par le mot médicament. Ce n'est pas un médicament.
C'est quoi ?
Ce sont des anticorps monoclonaux humains. Donc ce sont, il n'y a pas d'effet secondaire.
Ce sont des biothérapies.
Voilà, il n'y a pas des, on n'a pas d'effet secondaire puisque ce sont des... Toutes les études contre placebo ont montré exactement la même chose que le placebo au point de vue effet secondaire. Donc c'est ça déjà très important. Deuxièmement, ce qui est très embêtant, comme nous l'avons vu, la migraine s'étend sur toute la vie. Donc s'il faut prendre un traitement de fond toute sa vie, on n'y arrive pas. Là, gros avantage, on fait une piqûre par mois. On ne prend pas un comprimé tous les jours.
Parce que ce n'est pas un traitement de la crise, hein, c'est un traitement de fond.
C'est un traitement exclusivement de fond pour diminuer le nombre, la durée et l'intensité des crises.
Et ça fonctionne comment dans le cerveau, tout ça, enfin, dans les, pour les vaisseaux, là, je ne sais
alors,
pas ce que ça
cible. Alors, c'est un anticorps monoclonal antagoniste du CGRP. Le CGRP étant un peptide qui se trouve dans le cerveau et qui est un des maillons de la chaîne de la crise de migraine.
Donc ça va cibler ça.
Voilà, ça cible ce CGRP. Et il faut savoir que sur ces, il y en a 4 actuellement qui sont sur le marché plus ou moins.
Donc il y a 7 triptans et il y a 4 biothérapies qui vont arriver.
Voilà,
hein, c'est ça.
Qui vont arriver. Et dans ces 4 biothérapies, il y en a 3 qui sont des antagonistes du CGRP et un qui est un antagoniste du récepteur du CGRP. C'est très intéressant parce que si les uns ne marchent pas, on pourra toujours utiliser les autres.
C'est pas mal ça. Jimmy ?
Et qu'est-ce qu'on a comme efficacité dans les études ? Est-ce que c'est radical ? C'est-à-dire des patients qui avaient beaucoup de crises n'en ont plus du tout ou malgré tout, ils en ont encore
alors,
un petit peu ?
Les avantages, c'est que d'abord, ça peut agir très vite. On a des cas dans les études où ça marche dès la première semaine, ce qui est absolument spectaculaire. Parce
dès
que
la première injection ? Première injection, ouais, première semaine,
ouais. Pas de crise.
Un certain nombre de patients, pas beaucoup, mais il y a 15 à 20% où c'est à peu près comme ça, alors qu'avec les autres traitements, il faut 4 à 6 mois pour que ça fonctionne. Après, on arrive jusqu'à près de 80% de patients qui sont très améliorés. C'est-à-dire très améliorés, ça signifie une diminution de 30, 40, voire 50% du nombre de crises très rapidement. Et après, savoir si on se débarrasse complètement de la migraine, on n'a pas suffisamment de recul pour dire si à 5 ans, on n'a plus de migraine du tout.
Et quand ça marche, vous dites, il y en a certains chez qui c'est spectaculaire, d'autres chez qui au moins on diminue le nombre de crises mensuelles éventuellement. Est-ce que chez certains, ça peut diminuer même ne serait-ce que l'intensité de la crise ? On a des crises moins importantes aussi ?
Bien sûr, ça diminue le nombre, la durée et l'intensité. Parce qu'il faut savoir qu'une crise de migraine, ça dure de 4 heures à 72 heures.
Ouais.
C'est pas la même chose d'avoir mal 4 heures et 72 heures.
Il y a des gens que ça amène aux urgences.
Il faut savoir que le handicap et l'altération de qualité de vie pour l'OMS arrivent dans la migraine sur la vie totale, juste derrière la quadriplégie.
Ah oui, quand même. Donc on comprend effectivement le niveau de handicap que ça peut procurer. Et donc du coup, beaucoup d'arrêts maladie aussi, peut-être chez ces patients, plus que chez la moyenne.
Bien évidemment, ça entraîne... Mais vous savez, le migraineux est quelqu'un qui est extrêmement courageux et qui a un petit peu honte de sa maladie, ce qui fait qu'il va travailler, même en ayant mal. Alors qu'en fait, on ne peut pas trop parler d'arrêt de maladie, il faudrait parler de diminution de quantité de travail. Les gens travaillent à 50%, à 30%, mais ils viennent. Parce qu'ils ont un peu... Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise avec des gens qui ne sont pas migraineux, vous leur dites, écoute, j'ai une crise de migraine, il dit, va prendre un paracétamol, puis ça va aller mieux.
Et ça sera utilisable, vous disiez, donc pas chez tout le monde, il faut un nombre de migraines bien précis. C'est-à-dire que sur la part de migraineux au total, combien de patients pourront en bénéficier selon vous ?
Des patients qui font plus de 8 jours par mois de crise de migraine, c'est de l'ordre de 4-5%.
Ah oui, c'est pas tant que ça finalement. Donc l'assurance maladie a toute raison de...
C'est pas tant que ça. Prenez 5% de 8 millions.
Oui, mais quand on voit aujourd'hui le prix de certains traitements anticancéreux ou d'autres, oui, c'est pas 7000 euros par an, c'est
eh bien,
pas
vous
non
venez
plus...
exactement de mettre le point sur ce qui fâche. Parce que les traitements anticancéreux, pourquoi on se pose pas de questions ?
Parce que le pronostic vital est en jeu, bien sûr.
Un migraineux, ça fait rigoler tout le monde si on n'est pas migraineux.
Quand même, aujourd'hui, c'est une maladie qu'on reconnaît de plus en plus.
Pas assez.
Ouais, vous voyez encore des patients qui en souffrent beaucoup, qui sont stigmatisés aussi dans votre patientèle au niveau professionnel.
On n'en parle pas assez et on n'en tient pas assez compte.
Jimmy ?
Bon, du coup, ça va sortir quand tout ça en France ?
Parce que c'est bien.
Et la sécurité sociale va rembourser. Je crois que vous étiez un des rapporteurs justement de ce traitement pour la France à l'autorité de santé. Qu'est-ce qu'on attend là ?
On attend d'avoir les sous.
Ouais. Alors, on va attendre longtemps alors, non ? Parce qu'il n'y a pas d'argent.
Non, mais bon, je pense que si vous voulez, c'est compliqué. C'est un problème. On ne fait pas de politique. On est dans une émission médicale.
Bien sûr.
C'est toujours compliqué.
Et on a une
échéance
un an, deux ans, cinq ans ?
Non, je pense bien avant.
Vous
on
avez
peut
bon espoir pour quand ?
Moi, j'ai espoir pour... Les grandes vacances prochaines.
Cet été, à peu près.
Cet été, un petit peu après, peut-être. Voilà, je pense que...
Et on a du recul, vous avez dit, ça fait déjà 8 ans, je crois, qu'on teste ces médicaments, notamment aux États-Unis.
En France aussi, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a des effets secondaires, par contre ? Parce que bon, là, c'est une injection, ça cible des récepteurs dans le cerveau. Est-ce qu'il y a potentiellement des effets secondaires ?
Comme je vous le disais...
Je veux dire que ce soit naturel...
Mais c'est un anticorps humain. Il n'y a pas plus... Toutes les études le montrent. pas plus d'effets secondaires que le placebo. La seule chose qui est un petit peu embêtante, mais c'est assez, relativement rare, c'est une tendance à avoir une induration au niveau de l'injection.
Un petit bouton ou une rougeur, quoi, c'est
voilà,
ça
enfin,
comme
ça
quand on fait un vaccin, quoi, c'est ça.
Voilà, exactement.
Ouais, pas plus. Et comme la forme, dit. C'est très intéressant, selon vous, le fait que une fois par... Après, il y a ceux qui n'aiment pas les piqûres, mais devoir prendre des médicaments tous les jours, c'est contraignant, là, c'est chouette, non de
et pouvoir, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais.
Ils sont demandeurs, les patients
ça va... Ah, bien sûr, ça va améliorer considérablement l'observance.
Jimmy.
Donc c'est déjà une révolution, quand même, ces anticorps monoclonaux, mais est-ce que dans le futur, est-ce qu'on a d'autres pistes, peut-être aussi prometteuse ou peut-être encore...
Alors, on a d'autres pistes, mais depuis très longtemps, et des choses un peu compliquées, que sont les orexines, que sont les gépans, que sont...
voilà, c'est, tout c'est ça, des... ça ne nous dit pas grand-chose à nous,
oui,
mais,
sais, mais
on cible d'autres zones
voilà,
dans le
on
cerveau.
Il y a longtemps qu'on cible d'autres zones.
On peut imaginer la guérir un jour, parce que là, tout ce qu'on a dit, bon, c'est du préventif, on soigne la crise, mais que ce soit curable, la gangrène.
Guérir, il y a une seule chose, hein, c'est de la génétique, alors... Vous voyez ce qu'il nous reste à faire.
De la thérapie génique, carrément,
ben voilà.
Pour la migraine. Ouais.
Et voilà. Alors vous voyez faire de la thérapie génique pour la migraine.
Peut-être pas tout de suite, effectivement.
Juste en un mot, le Botox, parfois, peut améliorer certaines crises de migraine.
Alors, le Botox, c'est très... normalement, le Botox ne doit pas être utilisé dans la migraine. Il n'a pas l'AMM et les RTU ont été refusés. Les autorisations temporaires d'utilisation ont été refusées. En effet, toutes les études montrent que ça ne marche pas dans la migraine.
Certains neurologues le font. Oui,
mais ils le font, ça c'est leur problème. Mais ils n'ont pas... normalement, c'est interdit. Et... les études montrent que ça ne marche pas. La seule étude où ça, on a trouvé des résultats, c'est une étude sur la migraine chronique, c'est-à-dire des gens qui avaient plus de 15 jours par mois depuis plus de 3 mois. On a fait, l'ensemble des patients, ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait simplement sur une petite partie de cette masse de migraine chronique. Vous voyez,
pas de Botox dans la migraine.
Non. Normalement, en France, on ne fait pas.
Merci beaucoup, docteur Valade, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus donc, sur la migraine et ses traitements, bien sûr, avec des nouvelles prometteuses. Merci encore.
Merci beaucoup.
Dans un instant, notre chronique, les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux grains de beauté. Savez-vous comment il faut les surveiller, surtout chez ceux qui en ont beaucoup? À quel rythme faut-il les faire voir à un dermato? On vous expliquera tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle des grains de beauté. Savez-vous comment les surveiller? Quels sont les signes d'un grain de beauté qui dégénère peut-être en quelque chose de plus inquiétant? Savez-vous à quel rythme il faut les faire voir à un dermato? Toutes ces questions, notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous les poser. On écoute son micro-trottoir.
Tous les ans, je vais chez la dermatologue pour faire contrôler tous mes grains de beauté. Et...
le dermatologue ausculte en fait le corps entièrement.
Ça rassure de se faire contrôler, quoi. On est en sous-vêtements et puis elle contrôle tous les grains de beauté.
Derrière les jambes et tout ça, derrière les bras, des endroits où on ne va pas forcément regarder, sous les pieds.
Il faut les surveiller au quotidien, mais il ne faut pas non plus stresser dès qu'on voit un grain de beauté changer de forme ou vraiment changer de couleur.
Dès que c'est uniforme, c'est qu'il y a des risques. Il faut déjà les photographier apparemment pour surveiller leur taille.
Prendre régulièrement des photos de grains de beauté qui m'inquiétaient, donc c'est-à-dire toutes les semaines, voire tous les mois, et voir en fonction de son évolution si ça devenait vraiment un grain de beauté sur lequel il fallait justement consulter.
Bon, Jimmy, les grains de beauté, ça vous connaît, vous en avez plein, donc j'en sais rien du tout en fait. Je sais pas pourquoi.
Je salue ma femme. Je vous écoute.
J'en ai un certain nombre, mais j'en vois 2-3 sur vos bras là. Qu'est-ce que vous racontez? Alors, bon, bref, chaque adulte a des grains de beauté. On en a au moins une vingtaine chacun sur le corps. Parfois, c'est beaucoup plus. Mais avoir des grains de beauté, ça se surveille.
Exactement, les grains de beauté, on appelle ça les névus aussi. Ils se développent dès l'enfance, avec un pic à l'adolescence et jusqu'à l'âge de 30 ans. Évidemment qu'on en trouve tous répartis sur le corps en fonction des zones. Vous avez vu ceux de mes bras et pas les autres.
C'est ça.
Leur nombre varie aussi en fonction de l'hérédité et de l'exposition solaire. Et on sait que même si la plupart des grains de beauté sont inoffensifs, il est important de les surveiller, puisque ce qu'on redoute, c'est l'évolution vers un cancer de la peau, le mélanome. Et la règle, c'est de voir le dermatologue une fois par an, avant l'exposition au soleil, pour les faire contrôler.
Très bien, alors un rendez-vous annuel chez le dermato. Mais déjà, comment on peut faire pour les surveiller? Parce que je crois que l'autosurveillance à la maison, c'est important aussi, surtout quand on en a beaucoup. Comment on le fait, cet auto-examen?
Cet auto-examen, effectivement, c'est de... bah, s'il faut connaître sa peau, et donc c'est le dermatologue Caroline Robert qui nous l'avait dit sur le plateau, qu'il faut prendre des photos de référence, et un des auditeurs l'a dit, de son corps pour voir comment évoluent certains grains de beauté. Ça permet d'avoir une référence et de, par la suite, de les surveiller.
Pour les comparer.
Pour le dos, n'hésitez pas à demander à quelqu'un de vous photographier, parce que souvent, c'est des zones qui sont plus difficiles d'accès, mais parfois, certains vont malgré tout évoluer vers un cancer.
D'accord, donc le dos, l'arrière des cuisses, tout ça, on se fait aider éventuellement. Mais l'auto-examen, on fait comment? De la tête aux pieds, il faut regarder vraiment toutes les zones du corps, même celles auxquelles on ne penserait pas.
Exactement, le visage, les oreilles, le cuir chevelu.
Les oreilles, elle nous avait dit, le professeur Caroline Robert, qu'effectivement, il y avait souvent des mélanomes sur les oreilles, parce que c'est très exposé, surtout chez les hommes.
La paume, le dos des mains, les ongles, les avant-bras, les coudes, les aisselles, le cou, la poitrine, sous les seins également. Et puis le ventre, il ne faut pas hésiter aussi à regarder les organes génitaux, même si c'est parfois compliqué. Bref, il faut vraiment tout regarder. N'oubliez pas la plante des pieds, qui est souvent négligée et qui parfois se développe des mélanomes très agressifs.
D'accord, alors pour la technique de l'auto-examen, c'est bon, on a bien compris. Comment on s'aperçoit, qu'est-ce qui cloche finalement? On cherche le vilain petit canard, qu'est-ce qui doit nous alerter finalement?
Alors il y a une règle, c'est la règle ABCDE. A comme asymétrie, si votre grain de beauté a une forme un peu bizarre, non circulaire, avec deux moitiés que vous avez du mal à bien dissocier, c'est un problème. Donc A, l'asymétrie. B, pour les bords irréguliers, s'ils sont dentelés, mal délimités et parfois avec un pigment qui s'étend sur la peau autour de la tache, consulter. C, pour la couleur, une couleur non homogène, un grain de beauté qui aurait une couleur un peu bizarre.
Noir vers bleu, il doit être homogène. Normalement, la couleur, c'est la même tout le temps.
D, le diamètre, plus de 6 mm, ou s'il augmente rapidement, il faut consulter. Et E, l'évolution, s'il change d'aspect trop rapidement, il faut aller voir le dermatologue.
Très bien, Jimmy. Pour prendre ces photos, je crois qu'il y a un site qui existe. C'est donc le professeur Caroline Robert qui nous en avait parlé. Il a été développé à l'Institut Gustave Roussy à Paris. Et donc, ça s'appelle eSkin, I-S-K-I-N. C'est une application gratuite qui permet de surveiller ses grains de beauté, de prendre les bonnes photos qui vont bien pour surveiller tout ça. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, on se retrouve avec la chronique sexo, le meilleur de Catherine Blanc, qui nous parle aujourd'hui de l'utilisation des sextoys.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité et de sextoy, une nouvelle fois, avec cette question d'un mari inquiet, on dirait. C'est Thierry, 42 ans, je vous lis la lis Catherine. J'ai découvert que ma femme avait un godemiché caché sous sa lingerie. Que doivent en comprendre? Alors il n'a pas bien écrit, mais c'est pas grave. Que mon pénis n'est pas à la bonne taille, en tout cas à la taille de son fantasme. Alors Catherine, Thierry d'abord, il nous dit qu'il a découvert, donc ça veut dire qu'il a quand même un petit peu cherché, c'est pas bien ça, non, dans les fouilles, dans les affaires de madame?
Eh bien écoutez, peut-être qu'elle y allait chercher des dessous qui l'intéressaient pour lui, ce qui veut dire qu'il est mal placé peut-être pour se poser la question de savoir ce que fait madame dans sa sexualité. Bon, ceci étant, effectivement, c'est toujours curieux de tomber sur des choses qui rendent compte de l'intimité de l'autre, et de la nuit d'intimité qu'on ne partage pas. Et quand on est en couple, on croit tout partager, tous des fantasmes, toute la connaissance de ce qui anime l'autre. Alors évidemment,
c'est une surprise, quoi.
C'est une surprise qui n'est pas toujours confortable et qui du coup, à chaque fois, fait se poser la question, si je suis exclue de cette confidence, c'est qu'est-ce que ça raconte de moi? Alors qu'en réalité, ça ne raconte que d'elle.
Et justement, donc, on va peut-être rassurer Thierry, il y a quand même plein de femmes aujourd'hui qui ont des godemichés, il n'y a pas que sa femme, c'est déjà qui ne croient pas qu'elle est toute seule, quoi, c'est ça?
Oui, alors d'abord, il y a plein de femmes qui en ont en effet, souvent d'ailleurs qui en ont mais qui ne les utilisent pas. Et puis, de toute façon, encore une fois, ce godemiché, c'est une façon pour elle certainement de se masturber. Est-ce que lui rend compte de toutes ces masturbations? Et puis en plus, elle le fait avec un godemiché, pas avec le pénis d'un autre monsieur.
Parce que justement, ça n'a pas à voir avec lui, on est d'accord, ça a à voir avec elle, ça vous l'avez dit, et ça n'a rien à voir avec la taille de son pénis, c'est ça?
Alors voilà, la question qu'il se pose, c'est qu'il croit que le godemiché va être une représentation un peu caricaturale d'un pénis auquel il ne peut pas s'associer, et donc ça réveille son doute quant à lui. Donc c'est-à-dire qu'il y a un double doute, c'est quant à la taille et quant au fait qu'elle ait besoin de sexualité en dehors de moi, du coup une remise en question de sa valeur sexuelle.
Jimmy ?
Et finalement, est-ce que ça voudrait dire que sa femme fantasme sur des hommes qui auraient des pénis plus gros, tout simplement, ou aucun rapport? Est-ce que finalement, c'est juste, je veux dire comme ça, mais...
un jeu.
Est-ce qu'il doit se sentir en concurrence avec ce godemiché, ou en se disant, peut-être qu'elle aimerait d'autres rapports avec d'autres hommes qui auraient un pénis un peu plus gros?
Je crois que c'est tout le problème des godemichés, c'est que les godemichés sont très anxiogènes pour les hommes, à ce titre justement, parce qu'effectivement, ils sont plus gros, ou ils vibrent, est-ce que vous avez déjà vu un pénis qui vibrait ?
Non, ils sont...
Voilà, donc effectivement, ça repose vraiment la question et ça déstabilise beaucoup les hommes. Je pense aussi que, en fait, ces godemichés, quand ils sont gros, ce sont souvent des recherches que les femmes font, quand elles sont en doute quant à leur plaisir, quand elles peinent à avoir du plaisir, quand elles peinent à avoir du ressenti, elles cherchent tous azimuts ce qui pourrait réveiller ce corps et penser que peut-être plus gros ou peut-être plus lisse ou peut-être plus vibrant ou peut-être ça créerait
quelque
chose.
Plus vibrant, on ne trouvera pas, ça c'est sûr.
Voilà. En tout cas, que le pénis de son mari. Voilà.
Donc c'est marqueur quand même d'un problème dans leur couple finalement. Parce que j'ai
pas nécessairement
que le
godemiché,
c'est pas un sextoy comme un autre. Là, vous dites que c'est peut-être à la recherche de plaisir, donc il y a peut-être un vrai problème.
Oui, il peut y avoir un vrai problème, mais qui n'est pas nécessairement lié au couple, qui est lié à elle. Après, il peut y avoir simplement une envie de s'encanailler, d'essayer le truc des copines. Mais sinon, effectivement, ça rend compte de toute façon d'une recherche personnelle. Mais de toute façon, la sexualité faite entre soi et soi n'est pas la sexualité faite avec un homme, dans l'échange avec un homme. Donc, de fait, c'est encore autre chose qui se joue. Mais vous avez raison, ça pose la question de peut-être plus de fantaisie qui manque au couple ou une recherche d'un plaisir qu'on ne trouve pas et qu'on cherche désespérément sans pour autant tromper son partenaire.
Et du coup, Thierry, qui tombe sur ce godemiché, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il remet à sa place, il n'en parle absolument pas ou il le dit, écoute, voilà, je suis tombé sur ça, ayons une discussion franche ? On fait semblant de ne pas l'avoir vu ?
Ça peut. Alors, ça dépend évidemment de la femme. Peut-être que l'avoir vu dans des dessous où on n'était pas censé aller fureter.
Elle va être furieuse.
Ça sera pas quelque chose qui sera accueilli gentiment. Si par contre, c'était entre trois chaussettes, la recherche de je ne sais quoi, bon, bah là, les choses sont plus simples. Et si la femme est plutôt ouverte de façon générale à la discussion, en disant dis donc, ma coquine, j'ai trouvé ça, alors tu m'en parles, c'est peut-être autre chose. Et du coup, ça peut au contraire érotiser la relation. Sinon, ça peut être de ne rien dire et puis poser la question tiens, si j'avais envie de t'acheter un godemiché, est-ce que ça te dirait
pour voir la piéger du coup carrément.
Non, mais pour pas la piéger, oui. Mais juste pour voir ce qu'elle pourra dire. On dit mais tu sais, j'en ai déjà un ou pas. Et à ce moment-là, on respecte. De même que on n'aime pas être pris.
C'est là qu'elle lui répond j'en ai déjà trois, il en a trouvé qu'un. Et zut.
Voilà.
On peut découvrir des choses.
Ça c'est à Pâques.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve demain. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée en bonne partie à nos hormones. Elles peuvent expliquer beaucoup de nos problèmes de santé. On recevra l'endocrinologue, le docteur Emmanuel Lecornet. On vous en dit plus demain.